There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De Suzanne Lenglen à Marie-Josée Pérec, en passant par Laure Manoudou, Amélie Mauresmo, Jeannie Longo, j'en passe et des meilleurs, les sportives françaises sont nombreuses à avoir brillé dans leurs disciplines respectives. Mais quelle est la meilleure, celle qui vous a procuré le plus d'émotions ? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort ? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande sportive française de l'histoire. Pour m'accompagner, deux anciennes championnes qui ont pratiqué la natation pour l'une et le tennis pour l'autre, Sophie Camoun et Camille Pin. À leur côté, le journaliste Laurent Vergne d'Eurosport. Salut à tous.
Salut Adrien.
Salut.
Salut à tous. Bonjour à tous.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors pour commencer, quelle sportive avez-vous choisi de défendre ? Camille.
Amélie Mauresmo, ça ne te surprend pas, mais obligé d'évoquer Amélie.
Laurent.
Laure Manoudou.
Et Sophie.
Ah, j'aurais pu dire Laure Manoudou, mais j'ai choisi Marie-Josée Pérec.
Bien joué, bien joué. Eh bien, écoute, commençons par Marie-Jo. Sophie, pourquoi ce choix de Marie-Josée Pérec ?
Parce que quand on parle tout simplement de plus grande sportive de l'histoire, c'est le palmarès qui prime et que Marie-Jo a 3 titres olympiques. Elle a fait un truc complètement incroyable, c'est de gagner sur 2 Jeux olympiques d'affilée. Gagner un titre, on dit toujours que gagner un titre, c'est dur, mais en gagner 2, c'est encore plus difficile de durer. Et je crois que c'est vraiment valable pour les Jeux, parce qu'entre 2 titres olympiques, il se passe 4 ans. Et 4 ans, une Olympiade, c'est extrêmement long. Ce n'est pas comme gagner 2 titres de champion du monde à 1 an d'intervalle ou à 2 ans d'intervalle. Là, il y a 4 ans. Ça veut dire être au sommet de son sport pendant plus de 4 ans. Et voilà, en plus, elle a fait le doublé 200-400. La discipline d'athlétisme, c'est le sport olympique par excellence. Alors, c'est vrai que j'ai tendance, étant moi-même ancienne nageuse, j'ai tendance à voir un petit peu le sport par le prisme de l'olympisme. Et c'est vrai que voilà, l'athlétisme, c'est le sport numéro un aux Jeux Olympiques. Donc, en plus des disciplines reines, 200 et 400 mètres. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai choisi Marie-Jo.
Laurent, c'est aussi un choix que tu as hésité à faire, Marie-Josée Pérec. C'est vrai que souvent, quand on parle des plus grandes sportives françaises de l'histoire, Marie-Jo revient assez régulièrement en haut.
Bah, pour être honnête, non, je n'avais pas hésité. J'aurais aussi choisi Marie-Josée Pérec, mais on n'allait pas faire toutes les missions que sur Marie-Josée Pérec. Donc, derrière, il y avait quand même beaucoup d'autres grandes championnes dont on pouvait parler. Mais oui, je suis d'accord, Marie-Josée Pérec, pour moi, c'est probablement la plus grande championne française, tout sport confondu. Alors après, évidemment, on le sait très bien avec ce podcast, c'est très difficile de comparer les époques, les sports entre eux. Donc, c'est forcément compliqué, mais je pense quand même que, en tout cas, de ce qu'on a pu vivre, de notre vivant, sans remonter jusqu'à la préhistoire du sport, ce qu'a fait Marie-Jo Pérec, je ne suis pas sûr que ça ait un équivalent dans le sport français. C'est pour moi la plus grande spécialiste du 400 dans l'histoire, même si elle n'a pas le record du monde. Qui appartient à Marie Tacor, qui, même si elle était elle aussi une grande championne, était aussi issu de l'école de la RDA, dont on sait beaucoup de choses. Ouais, je ne vais pas insister là-dessus, mais je pense que les chronos qu'a fait Marie-Jo à l'époque, je crois qu'elle a un record en 48-25.
48-25, c'est ça.
Voilà, à Atlanta, en finale à Atlanta. Mon corps était à 47-60 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'était exceptionnel. Et puis, pour moi, c'était vraiment la faculté à être quasiment toujours présente au rendez-vous. Elle est championne du monde pour la première fois en 1991 à Tokyo, sur 400 mètres. L'année d'après, elle arrive à Barcelone avec une énorme pression parce qu'elle est archi-favorite et elle répond présente. Elle est championne olympique du 400. Après, elle s'est lancée d'autres défis. Elle a essayé d'être championne du monde sur 200 mètres. En 93, elle termine que quatrième, la place de la Conne, comme elle avait dit. Mais c'était aussi ça, Marie-Josée Pérec. Elle avait besoin de nouveaux défis, d'aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut. Ensuite, elle est revenue sur 400, championne du monde à nouveau à Göteborg en 95. Et puis Atlanta, je veux dire que même s'il n'y avait pas eu Atlanta, sa carrière était déjà extraordinaire. Double championne du monde et championne olympique sur 400, ça suffisait pour l'ancrer et dans l'histoire de l'athlétisme et dans celle du sport français. Et puis après, à Atlanta, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle conserve son titre sur 400 mètres, ce qui est déjà en soi formidable. Et puis, c'est la cerise sur le gâteau, ce doublé 200-400. Et ça, je pense vraiment qu'au-delà du sport français, ce doublé 200-400 à Atlanta, il lui a fait franchir un cap dans la légende de son sport, plus seulement de sa discipline, plus seulement du sport français, mais de l'athlétisme mondial. Parce que des doublés comme ça, forcément, c'est très, très marquant et ça a quelque chose d'inoubliable. Donc, voilà. Ouais, Pérec, c'était un talent naturel. C'est un physique aussi. Voilà, ses jambes interminables. Moi, je me souviens les premières fois qu'on l'a vu arriver. J'avais l'impression qu'elle faisait 2,10 m, Marie-Josée Pérec, quand je voyais la longueur de ses jambes.
C'est une élégance.
C'est une élégance dans le style, la façon de courir sur le tour de piste. C'était quelque chose de... En plus, on sortait quand même justement des années 80 où on avait vu beaucoup de championnes, notamment sur 400, Marita Kaur, Kratochvílová, qui étaient hyper puissantes. Et Marie-Jo, c'était la gazelle, comme on l'a surnommée. C'était un style vraiment complètement différent et qui faisait du bien aussi à voir. Après les écoles de l'Est. Donc, pour tout ça, c'est difficile pour moi de pas considérer qu'elle est la plus grande. Et puis, il y a sa personnalité aussi qui a pu paraître pas facile, pas très accessible, mais c'est quelqu'un de très timide et qui l'est encore, hein, Marie-Jo. Il faut savoir lui parler, quoi. C'était pas évident, mais c'est... C'est une personnalité qui, quand on arrive à l'apprivoiser un petit peu, qu'on discute avec elle, elle peut être très intéressante et très touchante au-delà de la championne.
Pour compléter ce que tu disais sur le record, hein, 48-25, c'est pas le record, c'est le record, tu disais, c'est Marita Kaur qui l'a. Colette Besson, elle estimait, elle, que le temps qu'elle avait réalisé à Atlanta en finale constituait pour elle le temps de référence. Donc ça veut quand même dire, Colette Besson, la grande championne qui a été championne olympique du 400 mètres avant Marie-Josée Pérec à Mexico en 68, elle l'avait doublé en quelque sorte. Et c'est vrai que, comme tu disais derrière, la gazelle, si on se rappelle cette dernière ligne droite au JO, ça a fait rêver plus d'un fan de sport. Camille, tu as un souvenir aussi, toi, de Marie-Jo?
J'allais dire, je vous écoute et c'est vrai que c'est énorme et ça m'a ramené à mon souvenir personnel où j'étais toute jeune et dans des familles où on aime le sport, en fait, les Jeux Olympiques, c'est l'événement à suivre et je me souviens d'avoir pleuré, d'avoir hurlé devant la performance de Marie-Jo. On s'était attaché à cette jeune femme malgré le fait qu'elle soit timide et moi, ça m'a surtout montré que on peut être une des plus grandes athlètes de tous les temps en ayant sa personnalité réservée. Pas obligé d'être une superstar et de se comporter comme une superstar pour toucher les gens. Et je me suis dit, elle, avec sa personnalité, avec ses exploits, elle est en train de faire pleurer tout le monde dans les chaumières. Et moi, c'est une émotion énorme. Et quand je la revois encore aujourd'hui ou dans les médias, ça me rappelle ces moments-là. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un paramètre, l'émotion qu'elle a suscitée, qui peut effectivement faire qu'elle peut gagner ce challenge. Mais ce n'est pas fini.
Et puis, c'est vrai qu'il y avait une forme de fragilité, quand on la voyait, parce qu'elle était toute grande, hyper longiligne, et puis quand elle s'exprimait, mais moi, j'aimais bien ça aussi, voilà, j'aimais bien tout le package, j'ai envie de dire, chez Marie-Josée Pérec.
C'est marrant parce que justement, après, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais quand Laure Manaudou est arrivée au plus haut niveau, j'ai trouvé que ces deux filles-là avaient beaucoup de points communs. En fait, ce côté un petit peu sauvage, pas forcément à l'aise avec la notoriété, qui leur est tombée dessus un petit peu du jour au lendemain, c'était des filles qui aimaient gagner, mais qui n'aimaient pas forcément, enfin, qui étaient un petit peu effrayées, finalement, par ce que la victoire suscitait derrière. Mais l'une comme l'autre, quand elles arrivaient quelque part, il se passait toujours quelque chose.
Amélie Mauresmo, qui également a été citée par Camille Pin comme étant une des plus grandes sportives françaises de l'histoire. Tu veux nous dire un mot sur le choix d'Amélie Mauresmo, qui est plus récente et qui, elle aussi, a marqué le tennis mondial?
Alors, le pourquoi, effectivement, bah, pour moi, il est assez simple. Je suis quand même d'accord avec Sophie que pour pouvoir évoquer des noms, il faut un palmarès, quelle que soit la personnalité derrière. Amélie, elle a ce palmarès numéro un mondial dans un sport, un des sports féminins les plus forts, les plus développés à cette époque-là. Vainqueur de deux grands chelems, il n'y en a pas eu beaucoup chez les hommes dans le tennis masculin. Donc, pour exprimer, médaillé olympique, victoire en Fed Cup. Donc, le palmarès, bien sûr qu'il y est. Après, ce qui m'a fait aussi choisir Amélie, au-delà du fait que ce soit ma discipline, et après j'aurais aimé prendre une autre discipline, mais Amélie m'a juste accaparé mon attention, parce qu'au-delà de l'athlète que c'était, même physiquement, on parlait du côté athlétique de Marie-Jo, honnêtement, Amélie, c'est une athlète hors norme. Moi, je l'ai vu monter les 21 virages de l'Alpe d'Huez à vélo, c'est hors norme. Et je pense que cet aspect-là, quand on parle de personnes hors norme, ben là, Amélie rentre là-dedans, une athlète hallucinante, des jambes hallucinantes. Donc, tout ça fait partie de, voilà, qu'elle est au-dessus des autres. Donc, au-delà aussi de cette élégance, tout ça, moi, je pense que c'est mon choix, et surtout par rapport à la popularité qu'elle a en dehors de sa discipline. Et ça, pourquoi il y a certains athlètes qui arrivent à l'avoir et d'autres non? C'est peut-être un peu alchimique, mais elle a elle aussi sa sensibilité. J'ai aussi aimé le fait qu'elle joue pas la superstar, qu'elle est toujours, elle a été elle-même. Parfois on l'a trouvée fragile, on parlait beaucoup de fragilité, Sophie t'en parlait, tu vois. Finalement, avec Amélie aussi, lorsqu'elle devient numéro 1 mondial en 2004 sans gagner de grand chelem, alors là tout le monde lui tombe dessus, ça c'est la base, malgré ses émotions, malgré sa fragilité qui l'a caractérisée, elle va chercher un premier grand chelem face à Justine Henin en Australie en 2006. Et Justine, malgré elle, lui chippe légèrement la vedette vu qu'elle abandonne. Et donc là, on lui dit « Ah oui, mais alors, ce n'est pas une vraie victoire. » Derrière, elle va chercher des ressources mentales pour aller gagner quelques mois plus tard face à la même joueuse à Wimbledon, son deuxième grand chelem. Et tout ça, ce sont des moments, voilà, il s'est passé quelque chose sur cette année 2006 pour Amélie, qui a montré que malgré la fragilité qu'elle pouvait avoir, qui la rendait humaine, elle est allée affronter des peurs et des jugements. Et tout ça, pour moi, ça fait partie du package. Et puis, dernière raison, c'est que quand on joue dans Astérix aux Jeux Olympiques, en tant qu'Amélix, ça veut dire, ça veut dire que vous êtes au-dessus. Donc là, je pense gagner, mais de loin.
Non, mais c'est vrai que ce que disait Camille, gagner Wimbledon, bah, finalement, c'est l'équivalent d'un titre olympique. C'est le Graal pour un joueur de tennis. Tous les joueurs de tennis disent que c'est quand même le tournoi du Grand Chelem le plus important, les Français adorent Roland Garros, évidemment. Mais c'est vrai que Wimbledon, c'est l'équivalent d'un titre olympique. Et c'est hier soir, je me suis penchée sur le palmarès d'Amélie, justement pour préparer un petit peu notre discussion. Je n'avais pas souvenir qu'elle avait été numéro un mondial pendant aussi longtemps. Elle a quand même été numéro un mondial pendant plus de 30 semaines, je crois.
À 39 semaines.
Énormissime. Elle a gagné deux tournois du Grand Chelem. Et moi, ce que j'aime dans cette fille, ce que j'ai toujours aimé dans cette fille, c'est ses prises de position, ses choix. C'est une fille qui a beaucoup de charisme, qui a une ouverture d'esprit, qui a réussi sa reconversion, qui est aujourd'hui dans le milieu du tennis. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut-être la distingue de d'autres grandes championnes. C'est qu'on a l'impression que c'est une fille qui vraiment aime transmettre, aime partager, qui a une vraie passion pour son sport. Et ça, je trouve que c'est aussi admirable de la part d'Amélie.
C'est vrai que juste pour rebondir sur ce que disait Sophie, on a parlé de sa carrière, mais un des faits de son après-carrière, c'est quand même la première femme à entraîner un joueur en la personne d'Andy Murray. Donc en fait, il s'est passé des choses pendant sa carrière, après sa carrière, et effectivement, elle marque par des faits, par des prises de position, et c'était très émouvant de voir justement cette première association qui a quand même fait quelque chose dans le monde du tennis.
Ouais, si tu n'en avais pas parlé, Camille, j'allais le placer. Effectivement, c'est vrai que je pense que le fait que quelqu'un comme Andy Murray aille chercher Amélie Mauresmo pour être sa coach, ça en disait beaucoup sur la joueuse qu'elle avait été, mais peut-être plus encore sur la femme qu'elle est. Et c'était un choix audacieux et courageux d'une certaine manière de la part d'Andy Murray, hein, parce qu'il savait qu'il entendrait peut-être... quelques rires dans son dos, mais il est allé chercher Amélie Mauresmo et pas une autre femme. Donc, c'est quand même aussi très significatif pour moi. Après, sur la championne, bah, ce qui est marrant, c'est que les trois dont on va parler principalement aujourd'hui ont toutes été des stars un peu malgré elles, parce que bah, quand on devient dans des disciplines... Alors, Marie-Jo Pérec et Laure Manaudou, il y a eu le prisme olympique. Quand on est champion olympique, et dans l'athlée et la natation sont quand même les deux sports phares des Jeux olympiques. Voilà, c'est les deux sports qui durent une semaine, dont on parle beaucoup. Et puis le tennis, c'est quand même un sport majeur, et notamment dans le sport féminin, c'est parmi les sports mixtes, je pense, peut-être celui qui marque le plus les gens, parce qu'on parle quand même beaucoup de tennis féminin. Donc, très jeune, hein, parce que Laure Manaudou était encore plus jeune, mais Marie-Jo Pérec, elle devient championne du monde, elle a 22-23 ans. Amélie Mauresmo, quand elle arrive en demi-finale à Melbourne, elle a tout juste 20 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui leur sont tombées dessus très jeunes, et elles n'avaient pas forcément envie d'être des stars. Il y a des sportifs et des sportifs qui aiment ça. Elles, je ne suis pas sûr que c'était leur cas, mais elles ont toutes essayé de l'assumer, et c'est peut-être Amélie Mauresmo qui l'a le mieux assumé, et sportivement, et sur tous les à côté, avec ses prises de position, ce qu'on a pu appeler ses prises de position, sa franchise sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. Et je pense que ça, Camille le dira peut-être mieux que moi, mais elle a peut-être mis du temps à digérer tout ça aussi. Et non seulement elle est devenue très forte très jeune, mais avec son coming out qu'elle a fait, je pense, de façon assez spontanée. Et voilà, tout ça, il lui a fallu le digérer. Elle a subi pas mal de critiques parce qu'après, on l'a trouvée fragile. Parce que, comme Camille l'a dit, elle est devenue numéro un mondial sans avoir gagné le tournoi du Grand Chelem. Donc ça, elle n'était pas la première ou le premier à qui ça arrivait, probablement pas le dernier. C'est très difficile à gérer parce qu'on a un problème de légitimité. Et puis en 2006, elle s'est, entre guillemets, acheté cette légitimité. Ou alors, elle ne s'était pas achetée, elle se l'est offerte. Et son année 2006, c'est, tout sport confondu, une des années les plus fabuleuses pour un sportif ou une sportive française. Gagner deux tournois du Grand Chelem dans la même année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, elle a eu, dans son bonheur, elle a eu un peu de malchance, Amélie, parce que quand elle gagne à Wimbledon, c'est tombé le week-end de la finale de la Coupe du Monde 2006. Et ça a un tout petit peu éclipsé médiatiquement son sacre, ce qui a, à mon avis, rien enlevé à sa joie à elle. Mais c'est vrai que ça aurait dû avoir un retentissement plus important encore si le lendemain, il n'y avait pas eu France-Italie à Berlin en finale de la Coupe du Monde de foot.
Après, Laurent, elle est en 2006 et 2007, elle est sur le podium des sportifs, pas sportives, sportifs préférés des Français.
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, mais je pense que...
Voilà, les femmes confondues sur deux années consécutives, c'est, voilà, ça, justement, ça montre la popularité qu'elle avait.
Ah, mais ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Et je pense que de toute façon, que ce soit Pérec, Manaudou ou Mauresmo, c'est des championnes qui ont transcendé leur sport et qui ont transcendé la notoriété de leur sport. Et je pense que même des gens qui ne s'intéressent pas de très très près au sport connaissent Marie-Josée Pérec, connaissent Amélie Mauresmo et connaissent Laure Manaudou. C'est en ça que je dis que ce sont des stars malgré elles, parce qu'elles ont atteint un niveau de popularité et de notoriété qui dépasse de très loin le cadre de leur sport. Et après, pour finir sur le tennis, on a vraiment eu beaucoup de chance, parce que c'est vrai qu'on dit souvent le tennis français n'a pas gagné de grand chelem depuis Yannick Noah en 1983, le tennis masculin français. Mais le tennis féminin a quand même gagné 5 titres du grand chelem depuis Noah. Et donc la dernière, c'était Marion Bartoli à Wimbledon. Et on a quand même vécu une période fabuleuse avec deux immenses championnes qui ont été contemporaines, Amélie Mauresmo et Mary Pierce, qui n'a pas été numéro un mondial, qui a eu peut-être plus de hauts et de bas qu'Amélie, mais qui en revanche a eu des très 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 hauts. Moi, je me souviens de leur finale au Masters l'une contre l'autre. Avant qu'on revoie deux Françaises ou deux Français s'affronter en finale du Masters, je pense qu'il va falloir un peu de temps. Et sur le coup, quand on a des champions ou des championnes comme ça, on ne mesure pas tout à fait la chance qu'on a de les avoir. Et 15 ans après, on se rend compte que oui, on avait beaucoup de chance. Je pense qu'on va en parler avec la natation. On n'a peut-être pas mesuré à quel point c'était extraordinaire et anormal presque à l'échelle de la natation française de vivre une période comme celle qu'on a vécue entre les Jeux d'Athènes en 2004 et les Jeux de Londres en 2012, où les médailles d'or, les records du monde, les titres, les podiums pleuvaient dans tous les sens. Et on avait fini par trouver ça, oui, normal, presque banal. Ils avaient banalisé la performance. Non, ce n'est pas normal. Et voilà. Et donc, notamment pour le tennis français, avoir Amélie Mauresmo et Mary Pierce en même temps, c'était vraiment extraordinaire.
D'ailleurs, je ne sais pas pour la natation, peut-être Sophie à nous répondre, mais du fait d'avoir eu ces deux monstres, justement, en France, derrière, en fait, ça avait créé une émulation et le niveau moyen des joueuses était incroyable. On était peut-être 12 joueuses dans le top 100. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le niveau où vous jouez des grands chelems. Mais on se sentait toute petite en étant dans le top 100. Parce que devant nous, il y avait une telle locomotive qu'on avait l'impression que si on n'était pas top 10, en fait, oui, c'est pas mal ce qu'on fait, mais franchement, il n'y a pas non plus à s'en vanter. Donc, elles ont créé cette dynamique pour pousser plein de joueuses derrière à aller plus haut. Et donc, c'est le rôle des légendes comme elles l'ont été, finalement, pour les autres sportives de leur pays.
En natation, c'est vrai que déjà, il y a eu Roxana, Mara Sidéadou, il y a eu Franck Esposito, il y a eu quelques nageurs, effectivement, mais qui n'avaient jamais remporté...
T'es en train de me spoiler.
Qui n'avaient jamais remporté de titre olympique. Et l'or, ça a été le début de quelque chose. Et moi, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, cette génération dorée, pour moi, j'ai tendance à dire qu'elle a commencé avec Manodou et elle s'est terminée avec Manodou, avec sa médaille d'argent en 2016. On va voir ce qu'il va faire cette année. Mais très honnêtement, entre 2004 et 2016, parce que c'est vrai que même si beaucoup de nageurs ont arrêté après les Jeux de Londres en 2012, on a eu quand même encore en 2013 les championnats du monde de Barcelone avec Yannick Agnel qui a gagné. On a eu 2015 avec la razzia de Florent Manodou. Donc pour moi, cette génération dorée, elle a vraiment été de 2004 à 2016. Elle a commencé avec Laure Manodou et elle s'est terminée avec Florent Manodou. C'est dommage d'ailleurs que j'ai souvent dit aux parents Manodou, c'est dommage que vous n'ayez pas fait 7 ou 8 enfants. Si, ils en ont eu 3.
Oui, c'est vrai, ils en ont eu 3.
Et le troisième a formé ses frères et sœurs. Mais effectivement, ça a décomplexé. Laure Manodou, elle a vraiment une passion française parce qu'on s'est rendu compte que finalement, à 17-18 ans, en s'entraînant dans une petite structure, parce qu'en l'occurrence, elle s'entraînait avec Philippe Lucas, qui à l'époque était à Melun et qui était inconnu. Il ne faisait pas partie des entraîneurs fédéraux, des plus grands entraîneurs français, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, cette petite gamine qui avait fait le choix à 14 ans de partir de son cocon familial pour aller chez Philippe Lucas, qu'elle avait fait ce choix-là et que 3 ans après, elle devient championne olympique, finalement, tout le monde derrière s'est dit que c'était quelque chose de possible. Et c'est ça qui a véritablement transformé la natation française. C'est cette décomplexion.
Laurent, justement, Laure Manodou, c'est 17 ans, ce titre olympique, c'est vrai que ça a été une explosion, peut-être du même niveau que quand Marie-Jo gagne. Il y a eu quelque chose, on ne s'attendait pas forcément à une telle explosion.
Je dirais même, Adrien, que pour moi, c'était plus fort. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle a 17 ans. Marie-Jo, elle a 24 ans quand elle est championne olympique. C'est pas pareil quand même, 17 et 24 ans. Et puis l'autre chose, c'est que la natation française, il n'y avait pas eu de médaille d'or olympique depuis 1952, plus d'un demi-siècle avec Jean Boiteux. Donc voilà, c'était être champion olympique pour un nageur ou une nageuse français. On avait du mal à l'imaginer, alors qu'en athlétisme, il y en avait eu quand même, régulièrement. Il n'y en avait pas des dizaines et des dizaines, mais on en avait. Donc, quand Laure Manaudou arrive, le Graal pour un nageur français, c'était d'être médaillé olympique. Il y a eu Roxana Maracineanu à Sydney, on a vu Franck Esposito, on a vu Stéphane Caron, Catherine Plevinsky, quelques autres. Je ne veux pas en oublier, mais j'en oublie sûrement. Mais ça restait quand même exceptionnel de faire une médaille de bronze ou d'argent en natation pour les Bleus. C'était exceptionnel. Donc, quand Laure Manaudou arrive et qu'elle fait non seulement une médaille, mais deux médailles, mais trois médailles. Elle a toute la collection puisqu'elle est championne olympique sur 400 mètres. Je crois que c'est sa première médaille d'ailleurs. Elle commence par ça, ce qui l'a peut-être aidé aussi pour la suite. Et ensuite, elle fait de l'argent sur le 800 mètres, je crois.
Oui, c'est ça.
Alors, elle fait d'abord le bronze sur le 100 dos et ensuite, d'accord, elle termine, il me semble, avec l'argent sur le 800.
Où elle fait un premier 400 incroyable. Elle part sur des bases hyper élevées et elle coince un tout petit peu et c'est ça aussi une championne exceptionnelle, c'est-à-dire que quand on arrive à se dire « Ah, quand même, c'est un peu frustrant qu'elle ne soit pas double championne olympique, alors que personne n'a été champion olympique en France dans son sport depuis plus de 50 ans », on peut se dire qu'on est face à un animal un peu particulier quand même. Donc pour moi, c'était vraiment… c'est une bombe, Laure Manaudou, quand elle arrive. On est vraiment… on est un peu sous le choc parce qu'elle fait trois médailles et qu'à l'échelle du sport français, faire trois médailles dans une même édition des Jeux, dont une en or… ça a quelque chose presque d'invraisemblable. Et puis pour moi, en termes de personnalité, c'est vrai qu'on peut la rapprocher de Marie-Josée Pérec, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir la naissance d'une star instantanément parce qu'elle bouffait la caméra. Enfin, il y avait quelque chose, quoi. On sentait que c'était une personnalité. Voilà, ça ne s'explique pas, ces choses-là. Et pour moi, j'ai ressenti ça assez instantanément parce qu'elle était très jeune aussi. Je pense qu'après, ça a été très, très dur pour elle à gérer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui lui sont tombées dessus très, très jeune. Et si ça lui était arrivé à 22 ans ou 23 ans ou 24 ans comme Marie-Jo Pérec et pas à 17, peut-être que sa domination aurait peut-être été plus longue. Alors là, je fais de l'Uchronie, on ne le saura jamais. Hein. Peut-être que ça n'aurait rien changé, mais c'est difficile quand même de gérer tout ça à 17, 18 ans. Mais ce qu'elle a fait après aussi, quand même, pendant 3 ans, c'est exceptionnel. Elle fait des mondiaux à Melbourne où elle ramasse 5 médailles, donc 2 en or. Donc, en très peu de temps, elle s'est construit un palmarès qui est presque inégalable, pour ce qui est de la natation française. Et puis, c'est vrai que, bon, Sophie l'a dit, hein, elle m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, l'eau sous le pied, ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que c'est le début de quelque chose. Et peut-être que même inconsciemment, elle en a décomplexé beaucoup. Et de voir ce que Laure Manaudou était capable de faire, comme ça, à 17, 18 ans, il y en a peut-être qui se sont dit « Bon, OK, finalement, nous, les Français, on n'est pas plus cons et pas moins bons que les autres. Donc, elle nous a montré la voie et on va le faire. » Et c'est vrai que ce qu'on a vécu derrière, c'est vrai que je parlais des Jeux de Londres parce que c'est le point d'orgue. Et derrière, je trouve, à tort ou à raison, que c'était moins une force collective avec des nageurs et des nageuses. On brillait dans énormément de disciplines différentes, sur des distances différentes, des nages différentes. Et après, on a eu Florent Manaudou, mais qui petit à petit est devenu un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Et c'est vrai que quand Florent s'est arrêté, là, on a quand même senti qu'on allait arriver sur un creux générationnel. Ben voilà, toutes les époques dorées ont une fin. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce qui a été construit pendant une dizaine d'années pourra quand même servir de base pour la suite et qu'on ne remette pas 50 ans à avoir un champion ou une championne olympique.
Sophie, tu veux rajouter un mot sur l'or, toi qui c'était ta discipline aussi, la natation.
Ouais.
Comment tu l'as vécu, comment tu l'as vu?
J'ai eu la chance de commenter sa course, son titre olympique. Je crois que le titre olympique lui est tombé un petit peu dessus. Comme dit Laurent, elle n'était pas vraiment préparée à ça. Elle était en panique totale à la chambre d'appel en se demandant ce qu'elle faisait là. Elle a eu les mots de Philippe Lucas à ce moment-là qui ont fait qu'elle a réussi à se remobiliser et aller nager et gagner ce 400 mètres. Après, ça a été compliqué. En 2005, au championnat du monde, elle a une pression énorme parce que cette explosion de notoriété qu'elle a eue juste après les Jeux d'Athènes ont fait qu'elle a très, très mal vécu l'année suivante, en 2005. Elle a eu une pression énorme, mais elle arrive quand même à arracher le titre de championne du monde. Et puis Laurent le disait, l'apothéose, ça a vraiment été, pour moi, Budapest, les championnats d'Europe en 2006, Et surtout les championnats du monde en janvier 2007. Parce que ces championnats du monde, non seulement elle gagne le 200, le 400, elle bat le record du monde. Elle bat le record du monde du 200. C'est vrai que là, c'est exceptionnel aussi, parce qu'on sait que les records du monde ont appartenu aux Allemandes de l'Est à une certaine époque. Bon, même si sur 400, entre-temps, il y avait eu Janet Evans, etc. Mais aller battre des records du monde sur 200 et sur 400, c'était quelque chose de complètement incroyable. Après, ce qui est dommage, et ce qui, pour moi, la sépare de Marie-Jo, c'est que elles ont eu finalement le même cheminement jusque-là, c'est-à-dire championnes olympiques toutes les deux. Et ensuite, elles ont essayé, l'une comme l'autre, juste avant les Jeux olympiques suivants, un an avant, de partir à l'étranger. Marie-Jo aux États-Unis, Laure en Italie. Et il y en a une qui a réussi derrière et l'autre qui, malheureusement, s'est complètement ratée aux Jeux olympiques de Pékin. Donc, voilà, pour moi, c'est, j'aurais aimé que Laure, je crois que Laure avait vraiment les moyens de dominer le monde pendant 7-8 ans. Elle a fait des choix personnels qui étaient différents. Mais c'est vrai que les Jeux olympiques de Pékin, elle est passée à côté. Et c'est dommage parce que quand on voit la suprématie qu'elle avait l'année précédente, elle aurait dû se faire plaisir jusqu'à Pékin.
Moi, j'ai une petite question pour toi, Sophie. Est-ce que si elle était restée avec Philippe Lucas, si elle n'avait pas changé sa structure d'entraînement, est-ce que tu crois qu'elle aurait continué à dominer comme ça? Ou est-ce que de toute façon, à un moment donné, il y aurait eu cette espèce de... Enfin, ce n'est pas un burn-out, mais voilà, tout le cumul des années précédentes, du travail accompli, de la pression médiatique, est-ce que ça aurait fini par casser de toute façon? Et c'était un peu inéluctable ce qui lui est arrivé en 2008.
Alors, je pense qu'effectivement, elle n'aurait pas tenu comme ça pendant 10 ans, mais elle aurait pu malgré tout tenir jusqu'aux Jeux olympiques de Pékin. Elle était vraiment, en 2007, quand on voit de quel état, de la façon dont elle remporte ses courses, c'est une fille qui était très, très jeune et très neuve aussi dans son corps, puisqu'elle n'avait jamais eu une blessure. Il aurait fallu, alors c'est certain, il fallait tenir l'entraînement de Philippe 18 mois supplémentaires, ce qui n'est pas facile, parce qu'on sait que l'entraînement de Philippe n'est pas quelque chose de facile. Mais en même temps, moi, j'ai toujours pensé que Laure n'aurait jamais pu être championne olympique sans Philippe, parce que Laure n'aimait pas nager. Elle l'a toujours dit, elle n'aimait pas nager. C'est ce qui peut-être fait la différence avec une Amélie qui aime profondément le tennis. Marie-Jo, je ne sais pas, mais je crois qu'elle aimait beaucoup gagner, mais je ne sais pas si elle aimait foncièrement vraiment courir. Mais Laure, elle le disait. Elle dit, moi, j'aime pas nager. J'ai fait de la natation parce que c'est là où je gagne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner, c'est pas de nager. Elle aurait pu faire un autre sport si elle avait gagné. Et donc, Philippe a réussi à la faire nager. Et quand on doit nager 14, 15, 16 bornes par jour, si on n'a pas un entraîneur à un moment donné, qu'on n'a pas envie de le faire et qu'on n'a pas un entraîneur à un moment donné qui vous pousse, qui sait trouver les mots justes, eh ben c'est compliqué. Et Philippe a réussi à faire ça. Et le jour où elle a quitté Philippe, il y a forcément les entraîneurs qui sont passés derrière n'ont pas réussi à la pousser, à continuer, à s'entraîner dur, à se motiver, etc., etc. Donc Philippe, on lui doit vraiment ça. C'est sûr que c'était difficile pour elle, pardon, de tenir très longtemps avec Philippe à ce rythme-là. Mais elle aurait pu, si psychologiquement elle l'avait souhaité, elle aurait pu tenir encore un an et demi de plus.
Pour évoquer d'autres championnes, on est parti sur la natation. Tout à l'heure, on parlait de tennis. C'est difficile également, Laurent, de ne pas évoquer en un mot Suzanne Lenglen, qui a elle aussi remporté plusieurs tournois du Grand Chelem, 6 Roland-Garros, 6 Wimbledon, qui est un des cours de Roland-Garros qui porte son nom. Ça a été aussi une pionnière du tennis féminin en quelque sorte.
Bah oui, et puis c'est l'équivalent pour le tennis féminin des mousquetaires Cochet, Lacoste, Borotra et Brugnon pour le tennis français masculin. Donc ça fait partie de ces mythes que l'on n'a pas connus, que l'on n'a pas vus, qu'on a lus, donc on a appris à lire à travers les lectures. Ce sont des légendes pour l'éternité. Après, en termes de palmarès, j'aurais pu te dire je choisis Suzanne Lenglen, mais bon, je pense que pour une émission comme ça, c'est quand même bien qu'on puisse aussi y mettre un peu de nous-mêmes et parler de souvenirs et de choses concrètes. Donc, je n'allais pas faire le faux spécialiste de Suzanne Lenglen au-delà de ce que j'ai pu lire sur elle et de ce qu'on connaît de son palmarès. Mais c'est, Suzanne Lenglen, c'était il y a un siècle, maintenant quasiment, hein, comme les mousquetaires. Et le temps n'efface pas ces personnalités-là, ces palmarès-là, parce que ce sont plus que des palmarès. Et sur le tennis, il y a un côté pionnier. Voilà, le tennis existe depuis longtemps, mais c'est à ce moment-là que les internationaux de France sont apparus, sont devenus un tournoi du Grand Chelem. Donc, ils appartiennent à une époque qui est très, très importante pour le sport français, et évidemment en particulier pour le tennis français. On leur doit ça. Et c'est important de ne pas les oublier en leur donnant le nom d'un cours très important ou de la Coupe des Mousquetaires, le trophée de Roland-Garros. Donc voilà, je pense que ce sont des légendes et rien ne peut, dans 50 ans, ce seront toujours des légendes. Et ce que j'espère, c'est que bah, quelqu'un comme Marie-Josée Pérec, dans 50 ans, ce sera toujours une légende. Mais j'ai bon espoir parce que, mine de rien, le temps file et ça fait 20 ans, une vingtaine d'années qu'elle n'est plus là et c'est, je pense, ces deux décennies n'ont en rien effacé de ce qu'elle a accompli.
Tammy ?
Oui, un mot sur, très rapidement sur Suzanne Lenglen. C'est vrai qu'on ne l'a pas vécu, donc c'est difficile de retransmettre des émotions. En revanche, je pense que le titre de légende ou pour Suzanne, c'est quelque chose de très fort par rapport à l'époque où elle a joué. Et je pense que le sport pour les femmes était quasiment interdit et d'avoir un palmarès comme ça à cette époque-là, je dirais qu'après toutes les athlètes dont on parle, oui, le sport féminin, une athlète féminine qui fait que ça de sa vie, c'est son métier et ça paraît tout à fait logique. À l'époque de Suzanne Lenglen, d'aller avoir un palmarès comme ça avec sûrement beaucoup de freins derrière par rapport à ce qui se passait dans la société, ça la met, je pense, en pole position par rapport à ce qu'elle a pu accomplir, même si effectivement on n'a pas d'émotion par rapport à ce qu'elle a fait, vu que nous n'étions pas là. En tout cas pour moi.
Ouais, une autre sportive qui a un palmarès long comme le bras et qu'on est obligé d'évoquer, hein, c'est Jeannie Longo également. Des titres sur route, des titres sur piste, des titres en VTT. Je ne sais même plus combien de titres, 9 titres de championne du monde sur route. Elle a gagné.
On a arrêté de compter. Hein.
Même elle, on a arrêté de compter. Mais il y a un chic incroyable. Elle a 32 ans, il y a eu 32 ans d'écart. J'ai compté entre son premier et son dernier titre national. Elle a le dernier titre de champion de France de contre-la-montre en 2011, elle avait 52 ans. Elle battait des filles qui auraient pu être ses enfants. Enfin, on se demandait quand est-ce que ça allait s'arrêter, Jeannie Longo. C'était incroyable.
Ouais, non, mais si on parle que de palmarès, Jeannie Longo, moi j'y ai pensé honnêtement. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder son palmarès parce que sinon.
Il n'y a pas que le palmarès comme quoi.
Non, il n'y a pas que le palmarès, évidemment. Et c'est vrai que. Sont des choses qui ne s'expliquent pas. Moi, j'ai ressenti plus d'émotions devant Marie-Josée Pérec ou Amélie Mauresmo ou Marie Pierce ou Laure Manaudou. Mais ce qu'a accompli Jeannie Longo, c'est à la fois extraordinaire et invraisemblable. Et elle a une place unique, je pense, dans l'histoire du sport français et même dans l'histoire du sport mondial. Et puis, c'était aussi, pour moi, un âge d'or du cyclisme féminin qui a du mal à retrouver ça avec des stars de cette envergure. On a oublié, mais dans les années 80, les Tours de France féminins, avec le duel entre Maria Canins, l'italienne, et Jeannie Longo, c'était quelque chose, quoi. On suivait ça presque aussi intensément que le Tour masculin. Et ça, on le doit, je pense, beaucoup, beaucoup à Jeannie Longo. Donc, c'est une championne, c'est ahurissant ce qu'elle a accompli. Mais après, effectivement, à l'heure de choisir, on est tous, je pense, attrapés par nos souvenirs et par les émotions qu'on a pu ressentir. Et là, on est dans un registre très personnel, moins rationnel, et qui ne s'explique pas et qu'il n'y a donc pas à justifier.
Une autre championne qui, là, pour le coup, nous a procuré de l'émotion, c'est Laura Flessel. Laura Flessel, la guêpe, qui a gagné plusieurs titres en individuel et par équipe à l'épée, à Atlanta, à Sydney et à Athènes. Sophie, Laura Flessel, c'est une championne qui t'a marqué ?
Laura Flessel m'a marqué, oui, parce que bien évidemment, elle est remportée là aussi dans les mêmes Jeux Olympiques. C'était à Atlanta en 96, il me semble, à la fois le titre individuel et par équipe. Aller chercher deux titres comme ça, En plus, la finale individuelle avait été très sympa puisqu'elle était contre une autre Française, contre Valérie Barlois, qui donc ça avait été un très très beau doublé français. Je crois que c'était vraiment l'époque là aussi de l'âge d'or de l'escrime. Il y avait une génération absolument incroyable, même si c'est vrai qu'en escrime, la génération incroyable, il y en a eu beaucoup de générations incroyables, puisque dans l'histoire des Jeux Olympiques, on a eu, je crois que c'est un des sports qui a rapporté, ou peut-être même le sport qui a rapporté le, ouais, le plus de médailles à la France. Mais c'est vrai que ces Jeux Olympiques d'Atlanta avaient eu ce côté un petit peu exceptionnel de voir deux filles monter sur le podium en individuel et d'aller remporter la compétition par équipe. C'est plus ça que je retiendrai, ce collectif, plutôt que Laura Flessel de façon individuelle.
Moi, Adrien, moi, je me souviens de Laura plus de par son exubérance positive, ce rayonnement qu'elle avait à l'écran et dans ses interviews. Enfin, on parlait justement de différentes athlètes qui avaient cette fragilité, peut-être cette timidité. Alors là, avec Laura, c'était vraiment l'athlète française qui donnait beaucoup. Et j'aimais aussi cette fougue qu'elle pouvait avoir et puis qu'elle a gardée dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui a procuré beaucoup d'émotions au-delà de son palmarès, sa fraîcheur et puis son franc-parler et son naturel.
Oui, Laura Flessel, elle avait beaucoup, beaucoup de charisme aussi. Hein. C'est vrai que c'était… Et puis, elle a un côté pionnière aussi parce que l'épée féminine est arrivée au jeu cette année-là. Et avant, il n'y avait chez les femmes que le fleuret qui était représenté au programme olympique. Donc, elle est aussi… Il faut avoir un peu de chance dans la vie. Elle est arrivée au bon moment, Laura Flessel. Elle a déboulé à la bonne période pour elle. Mais au-delà de toutes ces championnes dont on parle, je me rends compte quand même que vraiment, je dirais, du début des années 90 à la fin des années 2000, on a vécu pendant 15-20 ans une période où on a eu énormément d'immenses championnes françaises. Mmh. De Perec à Manodou, de Flessel à Mauresmo, Félicia Ballanger, Christine Aron. Enfin voilà, on en a eu vraiment énormément. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a toujours de très, très belles championnes françaises. Mais on le voit notamment aux Jeux où les principales figures sont redevenues des hommes. Et on aura envie de retrouver des très grandes stars du sport féminin français. Nous, à notre petite échelle, depuis 2004, Eurosport, on élit l'athlète de l'année, le sportif français et international de l'année. Et on a commencé en 2004. En 2004, ça avait été Laure Manodou. En 2006, ça avait été Amélie Mauresmo. Et depuis, il n'y a plus une femme. Donc, on a eu des super championnes. Évidemment, Camille Muffa, Marion Bartoli, Clarisse Agbenienou et beaucoup d'autres. Mais peut-être pas des stars de l'envergure d'une Perec, d'une Manodou, d'une Mauresmo, à la fois sportif et extrasportif. Et j'espère qu'on va vite retrouver ça.
Pour ne citer que quelques noms encore, Laurent, tu citais quelques filles qui avaient marqué ces dernières décennies. Citons aussi Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, qui a remporté la Route du Rhum en 1990.
Encore une pionnière.
Encore une pionnière. Côté. On peut citer
et
aussi
Guachel en ski.
Marielle Guachel, oui.
C'est quand même une des plus grandes championnes françaises de l'histoire aussi, je pense. Et oui, elle fait partie de… Alors, c'est un petit peu plus lointain, mais ça reste quand même une immense championne.
Ouais, double championne olympique au JO de 64 à Innsbruck et à Grenoble en 68. Et la petite histoire, ce qui est drôle, c'est qu'elle finit devant sa sœur en géant et derrière sa sœur en slalom. Donc, c'était les sœurs Guachel. Lucie Décosse aussi, qu'on pourrait citer. Ophélie David, qui également a remporté de multiples reprises la Coupe du Monde
une Perrine Laffont aujourd'hui qui sera peut-être dans cette qui est en train de se tailler un palmarès incroyable. De toute façon, elle a déjà tout gagné, elle a 22 ans, elle a déjà tout gagné, championne olympique, championne du monde, la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est bien, il faut qu'on retrouve encore plus de championnes comme ça, de cette envergure, on en a besoin.
En cette année olympique, on ne peut que le souhaiter. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les différents épisodes sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir ou même réécouter les précédents épisodes. À très vite.
Salut. Merci.
Allez.
À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.